Nous vivons dans un monde où l'injustice est omniprésente. Je ne parle pas ici seulement des traitements injustes que quelqu'un peut subir, ou des erreurs de justice qui malheureusement existent, mais aussi de ce qu'on appelle communément les inégalités de chance. En effet, personne ne choisit de naître, et encore moins les circonstances de sa naissance et de sa vie. Certains naissent dans un pays pauvre et d'autres dans un pays riche. Certains naissent dans un contexte aisé et d'autres dans un contexte précaire. Certains naissent dans une situation de paix et d'autres au milieu de la guerre. Certains naissent dans une famille aimante, alors que d'autres naissent dans une famille où règne la violence, l'indifférence et toutes sortes d'autres choses négatives. Certains naissent dans un corps malade et d'autres dans un corps en bonne santé. Certains naissent avec toutes sortes d'atouts, d'intelligence, de beauté, de charisme et d'autres pas. Certains naissent avec une longue espérance de vie, alors que d'autres s'en iront rapidement. Nous naissons et nous vivons dans un monde où, si en principe nous sommes tous égaux, nous n'avons cependant pas tous les mêmes atouts au départ, loin s'en faut. Nous vivons dans un monde où l'injustice sous toutes ses formes est omniprésente, un monde où elle est plutôt la norme et non pas l'exception. Le monde où régnera la justice est à venir. Il est l'objet de notre espérance, de l'espérance chrétienne, celui des promesses de Dieu. Mais pour l'heure, nous devons vivre dans un monde profondément marqué par toutes sortes d'injustices qui caractérisent notre humanité déchue et dont certaines, peut-être, nous concerne directement et personnellement. Les inégalités de chance ne sont bien évidemment pas les seules injustices que je pourrais mentionner. Le catalogue est malheureusement très long. Il y a cependant un type d'injustice que j'aimerais encore évoquer. Il s'agit des injustices qui découlent du mensonge. Le mensonge qui fait que des hommes et des femmes se retrouvent avec leur réputation salie à jamais, se retrouvent faussement accusés et injustement traités. C'est précisément cette injustice-là que Joseph va devoir subir dans le récit que nous allons méditer ensemble ce matin. Et je rappelle pour celles et ceux qui peut-être prendrait le train en marche, que nous avons commencé cette série sur Joseph dans l'Ancien Testament il y a quelques semaines maintenant et que nous aurons ce matin le troisième volet de cette série. Troisième volet où Joseph va se retrouver en prison suite au mensonge de la femme de Potiphar, son maître, avec laquelle il avait refusé de coucher. Alors je vous invite tout d'abord à lire le récit avec moi et nous allons commencer la lecture à la fin du chapitre 39 du livre de la Genèse. Je commence au verset 21. Genèse chapitre 39, verset 21. Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Après cela, l'échanson du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. Le pharaon, en colère contre ses deux hauts fonctionnaires, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison où Joseph était enfermé. Le chef des gardes préposa Joseph à leur service. Ils restèrent quelque temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, chaque rêve ayant son interprétation propre. Au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Alors il demanda au haut fonctionnaire du Pharaon qui était avec lui aux arrêts dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Il a bourgeonné, ses fleurs ont poussé et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, je t'en prie. Évoque mon cas auprès du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. Le grand panetier, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve à moi, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et de gâteaux pour le Pharaon. Les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour et il éleva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Quant au grand panetier, il le fit pendre selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Après avoir était vendu par ses frères à des marchands qui allaient en Égypte, Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte dans la maison d'un haut fonctionnaire nommé Potiphar. Et malgré les apparences, Dieu était avec Joseph et il a permis que celui-ci trouve grâce aux yeux de son maître en lui accordant de la réussite à toutes ses entreprises. Et c'est ainsi que Joseph a gravi les échelons et qu'il s'est retrouvé à la tête de la maison de Potiphar, nommé intendant de sa maison, responsable de gérer tout ce qui appartenait à son maître. Et c'est ainsi aussi que la femme de son maître a porté les yeux sur lui et a commencé à lui faire des avances. Des avances auxquelles Joseph a refusé de céder malgré l'insistance quotidienne de ses tentations. Mais devant les refus répétés de Joseph, Madame Potiphar a fini par faire accuser à tort Joseph d'avoir essayé d'abuser d'elle. Et c'est ainsi que Joseph se retrouve en prison. Nous l'avons largement souligné la dernière fois, le chapitre 39 de ce livre de la Genèse le répète à 4 fois, le Seigneur était avec Joseph. C'est comme si l'auteur voulait s'assurer que personne ne tirerait la mauvaise conclusion des déboires de Joseph, à savoir que Dieu l'aurait abandonné. Où est Dieu quand ses enfants sont éprouvés? Où est Dieu quand ses enfants sont injustement traités? Où était Dieu quand Joseph était dans la citerne, trahi par sa propre famille, puis vendu comme esclave? Où était Dieu quand, malgré sa fidélité, Joseph s'est retrouvé injustement accusé d'avoir voulu profiter de la femme de son maître? Où était Dieu quand Joseph a été jeté en prison et qu'il a ainsi à nouveau tout perdu? Nous lisons que Dieu était avec Joseph. Verset 2, verset 3, verset 21. Verset 23, le Seigneur était avec Joseph. Oui, le Seigneur était avec Joseph et il lui accorda de la faveur dans la maison de Potiphar et maintenant qu'il est en prison, dans la prison. Nous lisons au verset 21, il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Je l'ai évoqué la dernière fois, mais je le redis. Nous devons résister à la tentation de croire, avec une certaine tendance qui existe dans le monde évangélique, que la bénédiction de Dieu ne se trouve que dans la joie, que dans les moments de joie. Ce qui compte dans la vie chrétienne, disent certains, c'est la victoire, c'est la délivrance, c'est l'absence d'épreuves. Bien évidemment, qui ne veut pas toutes ces choses. Mais ils oublient que nous vivons dans un monde déchu et que le monde où il n'y aura plus de mort, plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ce monde-là est à venir. Il est à venir et il ne viendra que quand les premières choses auront disparu, c'est-à-dire après le retour du Seigneur. Il est facile d'oublier cet enseignement omniprésent dans la parole de Dieu qui montre la bénédiction de Dieu même au jour de l'épreuve, même au jour de l'injustice, même au jour de la souffrance. Dieu était avec Joseph et c'est ainsi qu'il a obtenu la confiance du chef de la prison. C'est ainsi qu'il s'est vu confier tous les prisonniers de la prison et tout ce qui se passait dans la prison passait par Joseph. Et nous lisons ensuite au verset 23 que, comme chez Potiphar, la confiance accordée à Joseph était totale. Verset 23, le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir toutes ses entreprises. J'aimerais souligner ici que ce que nous lisons dans ces deux versets, de la fin du chapitre 39, dit bien évidemment la grâce de Dieu pour Joseph, mais ne dit pas que ça. Elle dit aussi, ces deux versets disent aussi quelque chose de la bonne attitude de Joseph et de son comportement exemplaire. Joseph s'est vu confier des responsabilités parce qu'il agissait à n'en pas douter avec droiture, avec intégrité, avec sagesse. Alors ça peut paraître une évidence, mais il aurait pu en être tout autrement. C'est relativement facile de bien faire les choses quand tout va bien pour nous. C'est relativement facile d'être fidèle à Dieu quand il nous bénit, quand il déroule le tapis rouge devant nous. C'en est une autre d'agir ainsi, quand tout s'effondre, quand nous sommes traités injustement, quand notre vie du moment ne correspond plus à ce que nous espérions, ne correspond plus à ce que nous demandons à Dieu, quand on se retrouve dans les cachots égyptiens qui étaient tout sauf des palaces, j'allais dire 5 étoiles, mais même pas une étoile, même pas de palace du tout. Et Joseph a su garder une bonne attitude. Une bonne attitude dans l'épreuve. Et je pense qu'il a su le faire, il a pu le faire parce qu'il avait mis sa confiance dans le Seigneur. C'est à ce stade du récit qu'apparaissent les deux personnes ou les deux personnages clés du chapitre 40. Les chansons et le panetier du roi d'Égypte. Alors non, les chansons, ce n'est pas le Francis Cabrel égyptien de service. C'est simplement celui qui avait la responsabilité des boissons du roi. Le panetier, quant à lui, était responsable de la nourriture du pharaon. C'était donc des personnes importantes en qui le pharaon devait avoir toute confiance parce que sa vie était entre leurs mains. S'il y avait une tentative d'empoisonnement, bye bye les chansons ou bye bye le panetier, puisqu'ils étaient les goûteurs attitrés du roi. Et longue vie au pharaon. Qu'ont fait ces deux hommes pour susciter la colère du pharaon? Les chansons a-t-il servi de la piquette au repas de midi? Le panetier a-t-il trop cuit le repas ou a-t-il oublié de le saler? Le texte ne donne aucune précision. Ils se contentent de dire qu'ils péchèrent contre leur maître et que celui-ci, en colère contre eux, les fit mettre aux arrêts. Nos deux hommes se font donc arrêter et mettre en prison. Où ça? Tiens, là où se trouvait Joseph. Un hasard? La Bible ne connaît pas cette notion du hasard. Ce que la Bible enseigne, c'est la souveraineté de Dieu et sa providence. La souveraineté de Dieu, c'est le fait qu'il est au-dessus de tout et que tout lui est soumis. La providence, c'est le fait que le hasard n'existe ni dans ce monde, ni dans notre vie, parce que Dieu est souverain et parce qu'il dirige toutes choses pour la réalisation de son plan. Et c'est ainsi que Dieu permet et conduit l'emprisonnement de ces deux hommes là où Joseph se trouvait, et il permet qu'ils se retrouvent ensemble. Alors soit Joseph était à leur service, soit ils étaient confiés à la charge de Joseph. Il y a une petite ambiguïté dans le texte hébreu, on peut traduire des deux manières. Mais quelle que soit la traduction ici, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu met au contact de Joseph ces deux hommes. Dieu est en train de préparer la suite des événements. Et voilà qu'une nuit, nos deux hommes font chacun un rêve. Un rêve qui les laisse perplexes, qui les trouble. Verset 6, nous disons qu'au matin, ils étaient de mauvaise humeur. Et au verset 7, qu'ils avaient l'air sombre. Et Joseph le constate. Joseph le constate parce qu'il n'était pas replié sur lui-même. S'il l'avait été, il n'aurait rien vu. La tentation du repli sur soi est une tentation très forte quand nous vivons des choses difficiles, et en particulier quand nous avons le sentiment d'avoir été injustement traités. Mais à l'évidence, Joseph n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il ne vivait pas dans cette prison en rasant les murs, en restant dans son coin, en ressassant les injustices dont il avait été victime, en cultivant la pitié de soi. Au contraire, Joseph était à l'évidence tourné vers les autres. Il avait le souci des autres. Il était capable, même dans l'épreuve, de penser aux autres, d'avoir à cœur le bien-être des autres. Verset 6, au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur, alors il demanda, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Quel bel exemple que Joseph nous laisse ici. Un exemple plein d'humanité, plein de désintéressement, plein d'ouverture à l'autre. Il est si facile de se replier sur soi dans l'épreuve, si facile de se lamenter, en particulier si nous sommes victimes d'une injustice, si facile de penser que la vraie vie, c'est après, quand ça ira mieux, si facile que c'est là que je me tournerai vers les autres, à ce moment-là, quand ça ira mieux, parce que j'aurai à nouveau le temps, l'énergie, l'envie, ou que sais-je encore. Mes amis, c'est une grande illusion et une grande tentation que de penser les choses ainsi. La réalité, c'est que ces choses peuvent déjà se vivre même dans nos épreuves. La vraie vie, c'est déjà aujourd'hui, même si tout n'est pas aujourd'hui comme je l'aimerais. Bien sûr, toutes les épreuves ne sont pas équivalentes. J'en suis bien conscient. Et certaines sont sans commune mesure les unes avec les autres. Plus dures, plus restrictives, certaines par rapport aux autres. Mais ce dont il est question ici, c'est avant tout d'un état d'esprit, d'une ouverture à l'autre, que je peux avoir même dans la souffrance, que je dois cultiver même dans l'épreuve et dans les difficultés. N'avez-vous jamais été encouragé par quelqu'un qui vivait quelque chose de difficile ? Vous le savez, vous en êtes conscient. Et qui sait vous rejoindre dans la difficulté que vous, vous vivez? Qui sait prendre le temps pour s'intéresser à vous malgré ce qu'il est en train de vivre? Qui a su faire ce que Joseph fait dans notre texte? C'est tellement fort quand quelqu'un vous témoigne cet intérêt-là, cette affection-là, malgré sa maladie, malgré sa souffrance, malgré peut-être un horizon complètement bouché pour lui. Et je prie que Dieu fasse de chacun de nous des femmes et des hommes capables de regarder aux autres en tout temps, de regarder aux autres et à leurs besoins, capables de s'extraire un peu des difficultés que nous vivons tous, pour nous intéresser un peu à celui qui, à côté de moi, en vit aussi et peut-être même des bien pires. Et je crois que cela est possible quand nous mettons notre confiance en Dieu pour nos circonstances, quelles que soient, quand nous sommes dans l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Alors que les chansons et le panetier disent à Joseph ce qui les préoccupe, Joseph rend un beau témoignage à Dieu. Verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations ?» Dans l'Égypte ancienne, les interprétations, c'était l'affaire des magiciens, c'était l'affaire des prêtres, c'était l'affaire des sages. « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations ?» Joseph sait que toutes choses sont dans les mains de Dieu. Et c'est ainsi que Joseph leur demande de lui raconter leurs rêves. Une demande qui souligne avec force que Joseph n'a pas perdu confiance en Dieu. Notons qu'il aurait très bien pu ne plus vouloir avoir rien à faire avec les rêves. C'est quand même à cause de ses propres rêves, en grande partie, que la jalousie et la haine de ses frères avaient été attisées envers lui. C'est les chansons qui racontent son rêve en premier. Et Joseph lui donne l'interprétation qu'il reçoit de Dieu, une interprétation favorable, qui dit que dans 3 jours, il serait libéré et restauré dans sa fonction. Et après avoir donné cette interprétation-là à les chansons, Joseph lui adresse une demande. Versets 14 et 15. « Seulement quand tout ira bien pour toi, « Souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, je t'en prie. Évoque mon cas auprès du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. Souviens-toi de moi, dit Joseph. Quand tout ira bien à nouveau pour toi, agis envers moi avec fidélité. Évoque mon cas au Pharaon. Fais-moi sortir de cette maison. Plaide ma cause auprès de Pharaon. J'ai été injustement traité. Je t'en prie, ne m'oublie pas. Et profite de ta position privilégiée auprès de Pharaon pour lui glisser un petit mot en ma faveur. J'aime bien cette requête de Joseph. Elle souligne pour moi le fait que Joseph avait les pieds bien sur terre. Croire en Dieu ne nous empêche pas de garder les pieds sur terre. Croire en Dieu et même en sa souveraineté, ce n'est pas penser que tout nous tombe tout cuit du ciel. Croire en Dieu, ce n'est pas planer sur un petit nuage et être complètement déconnecté de toutes les réalités de la vie. Croire en Dieu, ce n'est pas attendre les bras croisés que Dieu fasse tout pour moi. Croire en Dieu, c'est aussi être réaliste. C'est aussi saisir les occasions que Dieu nous donne et peut-être même qu'il prépare pour nous. C'est aussi se prendre en main. Ce n'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera », ce qui est un peu contestable, mais plutôt « ce n'est pas parce que le ciel t'aide que tu ne dois pas faire ta part ». Ce n'est pas parce que le ciel t'aide que tu ne dois pas faire ta part. « Souviens-toi de moi », demande Joseph à l'échanson. Alors voyons l'interprétation favorable que Joseph donne au rêve de l'échanson, le panetier, s'enhardi, en tout cas raconte à son tour son rêve à Joseph. Mais malheureusement pour lui, l'interprétation qu'il reçoit est bien moins favorable. Dans 3 jours, il est aussi question de 3 jours, mais pas pour sa libération, mais pour sa mise à mort. Une fois de plus, ici, j'aimerais souligner l'attitude remarquable de Joseph. L'attitude remarquable dans le fait qu'il dit la vérité au panetier. Vous le savez comme moi, dire la vérité n'est pas toujours facile. Surtout quand il faut dire des choses que l'autre n'a pas envie d'entendre. Surtout quand on est porteur de mauvaises nouvelles. Mais Joseph aurait pu botter en touche, comme on dit. Il a choisi de dire la vérité. Je crois que dire la vérité, c'est loin d'être toujours facile, mais c'est toujours le bon choix. En tout cas, le choix qui honore Dieu est le choix que Dieu honore. Mais dire la vérité toujours ne suffit pas. Il faut bien évidemment le faire avec sagesse. Il faut bien évidemment choisir le bon moment. Il faut bien évidemment choisir les bons mots. Et puis surtout, il faut le faire dans l'amour. Dire la vérité, ce n'est pas l'asséner. Ce n'est pas l'enfoncer dans la tête de l'autre à coups de marteau. J'aime beaucoup ce texte des Éphésiens qui dit « En disant la vérité dans l'amour », alors il y a beaucoup de choses qui précèdent, mais « nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ ». En disant la vérité dans l'amour, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. 3 jours plus tard, c'est la fête, c'est l'anniversaire du Pharaon, et au cours du banquet qu'il donne aux gens de sa cour, il rétablit les chansons dans ses fonctions, et il fait mettre à mort le panetier, comme Joseph l'avait annoncé. Joseph, on pourrait dire Dieu, ne s'est pas trompé, bien évidemment. Tout s'est réalisé comme Joseph l'avait dit. Et il ne reste plus maintenant pour Joseph qu'à attendre sa prochaine libération. Aucune raison que les chansons ne tiennent pas parole. Mais malheureusement pour Joseph, l'épreuve n'est pas encore terminée. Le temps de la délivrance n'est pas encore venu. Et le chapitre se termine avec ces trois mots terribles. Il l'oublia. Il, c'est bien évidemment les chansons qui, une fois dehors, ne pensa plus à Joseph. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Il est facile d'imaginer Joseph comptant les jours, puis les heures, guettant l'arrivée de celui qui viendrait annoncer sa délivrance, sa libération. Mais les jours ont passé, et puis les semaines, et puis les mois, et personne n'est venu. Les chansons ont complètement oublié Joseph. Une nouvelle trahison. Une injustice de plus pour Joseph. Et en réalité, Joseph va rester encore 2 ans dans cette prison. Début du chapitre suivant, nous lisons « Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. » Quelle désillusion ça a dû être pour Joseph. 2 ans, c'est long. 730 jours, c'est long. De quoi ne plus rien comprendre aux voix de Dieu. Ce yo-yo, pour Joseph, ça a dû être difficile à comprendre. Mes amis, les voix de Dieu ne sont décidément pas toujours les nôtres. Nous en avons déjà parlé dans le volet précédent. Mais ce constat s'impose à nouveau ici, à la fin de ce chapitre. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas nos pensées. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Ésaïe 55, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Et quand on ramène ça à la dimension de l'univers, ça peut faire une sacrée distance. Et c'est ainsi que parfois nous ne comprenons pas ou nous ne comprenons plus les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer. Et c'est dans ces moments difficiles en particulier que nous devons nous souvenir d'une chose essentielle. C'est que la vie chrétienne, c'est une marche par la foi et non par la vue. Marcher par la vue, c'est relativement facile. C'est en tout cas envisageable quand les circonstances sont favorables. Et ça peut même fonctionner un certain temps. Mais par contre, quand notre ciel s'obscurcit, quand l'épreuve arrive, marcher par la vue devient très compliqué. La vie chrétienne est une vie où nous devons marcher par la foi. C'est-à-dire une marche qui fait confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Une marche qui fait confiance à Dieu en dépit des circonstances. Une marche qui fait toujours confiance à Dieu, que je comprenne ou ne comprenne pas ses voies. Marcher par la foi, c'est regarder à Dieu et non pas à nos circonstances, encore moins à nous-mêmes. Et encore moins aux autres, c'est s'attacher à sa parole, s'attacher à ses promesses. Et c'est alors et seulement alors que je pourrai continuer à croire en la bonté de Dieu, même au jour de l'épreuve. C'est alors que je vais pouvoir continuer à croire en sa présence, même quand il me semble si lointain. C'est alors que je vais pouvoir continuer à croire en son existence quand le mal semble victorieux tout autour de moi. Il est tellement facile d'être influencé par les circonstances de notre vie. Il est tellement facile de chercher à ce que nos circonstances soient toujours favorables. Il est tellement facile de croire que la vie chrétienne normale, ce serait une vie chrétienne dépourvue d'épreuves. C'est tellement facile de chercher à marcher par la vue. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors oui, parfois Dieu permet l'épreuve, nous le savons tous. Oui, parfois Dieu permet l'épreuve qui dure. Oui, parfois Dieu permet l'injustice dans notre vie. Oui, parfois Dieu permet la trahison. Et parfois son timing n'est pas le nôtre. Ses voies ne sont pas les nôtres. Et nous expérimentons la déception. Nous avons le sentiment que Dieu nous a abandonnés. En tout cas, le sentiment que nous ne comprenons plus les voies de Dieu. Alors que faire? Comment avancer? La foi, c'est simple. Ce n'est pas simpliste, mais c'est simple. En comptant sur les promesses de Dieu. En mettant notre foi en œuvre. Je n'ai pas plus compliqué que ça à vous proposer. Parce que ça se résume à cela. Et c'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons tenir quand les vents sont contraires. C'est ainsi et seulement ainsi quand nous comptons sur les promesses de Dieu, quand nous mettons notre foi en œuvre, notre foi qui s'appuie sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a promis. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons tenir face à l'injustice. Tenir en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde profondément marqué par l'injustice. Et peut-être souffrons nous-mêmes en ce moment des choses qui sont injustes. Dieu, dans sa parole, nous invite à regarder plus loin que les circonstances du moment. Dieu nous invite à lever notre regard. Dieu nous invite à saisir ses promesses par la foi. Il y en aurait beaucoup auxquelles je pourrais faire appel ici. J'aimerais terminer avec cette promesse que nous trouvons à la fin de la deuxième épître de Pierre, où il dit « Nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. » La justice que nous désirons tous, elle est à venir. Dieu l'a promise, mais nous l'attendons encore. Nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Face aux injustices de ce monde et aux injustices dans notre propre vie, voilà notre espérance. Voilà l'espérance chrétienne. Un monde de justice parce que les premières choses auront disparu. Un monde de justice parce que Dieu aura jugé les injustices et le mal. Un monde de justice parce que le mal et le péché ne seront plus. Un monde de justice parce que Dieu règnera pleinement au milieu de son peuple. Que le Seigneur renouvelle notre espérance et notre foi en lui. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.